Oasis Hamburg en Bushmay au Caché Oriental. J'ai réussi totalement ce qui
s'est passé. Moi, j'ai été de mon ami au Caché-Orange. Je pense qu'en combinant les deux, la vie de mes présidents trouvait une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, merci de choisir Radio Capi et bienvenue dans cet échange citoyen. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté le mercredi 29 mars dernier la résolution 2277. Dans cette résolution, les conseils indiquent notamment la Commission électorale nationale indépendante a publié un calendrier complet révisé couvrant la totalité du cycle électoral et demande au gouvernement de la RDC d'élaborer rapidement un budget et un code de conduite pour les élections présidentielles et législatives de novembre 2016. Par ailleurs, Edem Kodjo, facilitateur désigné par l'Union africaine, annonce que le dialogue devra se tenir dans le respect de la Constitution. Certains observateurs estiment que cette annonce rencontre, certes, les caractères contraignants de la résolution 2277. Qu'en pensez-vous? À l'adresse ca@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Notez que toute l'équipe est là pour produire cette émission. Pierre et la musique est à la réalisation. Julie Fesabongonda est au standard. Eric Sidiakala assure la mise en onde de ce programme coordonné et présenté par Pierre Mungembo sous la supervision de Martin Sébu Jalouet. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Gilles Nguema.
On le sait très bien qu'une décision de l'Assemblée générale ou des Nations Unies ou encore une décision du Conseil de sécurité constitue au fait soit une recommandation ou encore une décision qui revêt un caractère juridique contraignant d'un droit international. C'est de ça que nous allons débattre tout au long de cette émission par rapport à cette résolution 2277. Vous êtes déjà nombreux qui avaient sollicité d'abord de participer à cette émission avant de retrouver notre invité qui est d'ailleurs dans ce studio, monsieur Chibangoukalala, professeur Chibangoukalala, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en droit, de droit donc international à l'université de Kinshasa, n'est-ce pas? Et vous êtes le président d'un parti politique, membre de l'opposition.
C'est exact. Oui.
Voilà. Alors, on va d'abord, si vous le permettez, écouter quelques auditeurs qui ont réagi par rapport à cette thématique. Et puis, on reviendra à vous pour en fait éclairer la lanterne des uns des autres. Jappé, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Gilles.
Quel est votre avis? Qu'est-ce que vous pensez, vous, personnellement, par rapport à cette thématique?
Je salue d'abord le professeur Chibangoukalala de la faculté de droit, notre très chère faculté, et j'ai quelques éléments d'explication par rapport à la résolution 2277 qui, à mon sens, marque une étape très importante dans le cadre du processus des transitions démocratiques en RDC. Puisque je constate que la résolution, le Conseil de sécurité, en prenant cette résolution, s'est placé en phase avec les aspirations du peuple congolais, c'est-à-dire le combat pour le respect de la constitution de la RDC. Et le Conseil de sécurité a été plus clair parce que dans le point 7, 8 et 9 de cette résolution, le Conseil dit par exemple qu'il demande au gouvernement de veiller à la transparence et à la crédibilité du processus électoral conformément à la constitution et demande aussi au gouvernement de créer des conditions propices à la tenue des prochaines élections et notamment de faire une priorité des conditions nécessaires à la tenue des élections présidentielles et législatives. Donc vous voyez que lorsqu'on analyse un peu la situation politique dans notre pays, on se rend compte que la majorité de Congolais est mobilisée pour le respect de la Constitution. Et cela vaut son pesant d'or, puisque la Constitution, c'est la loi fondamentale et elle ne doit pas être violée. Les conseils aussi soulignent particulièrement que les élections doivent se tenir dans le temps. et souligne que les élections sont attendues pour novembre 2016. Aujourd'hui, il reste exactement 250 jours au mandat du président Kabila, et dans 250 jours, il est possible d'organiser les élections, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. S'il y a un maximum de volonté politique, ce qu'il faudra faire, c'est, un, de commencer la révision de listes électorales. La révision de listes électorales peut se faire, si l'on en croit l'expertise de l'Organisation internationale de la francophonie, dans 4 mois. 4 mois représentent 120 jours. Et vous verrez qu'il restera 130 jours. Et en 130 jours, on peut organiser ce scrutin, on peut mettre le moyen. Le gouvernement estime qu'il est irresponsable de lui rappeler sa responsabilité dans l'organisation du scrutin. Non. J'estime plutôt qu'il est irresponsable de la part du gouvernement d'empêcher la tenue des élections dans le respect des délais constitutionnels. Parce qu'agissant du dialogue de M. Kodjo...
Oui, j'appelais parce que j'allais juste à l'arrivée là. Aujourd'hui, c'est vrai, Edem Kodjo, facilitateur désigné par l'Union africaine, annonce que le dialogue devra se tenir dans le respect de la Constitution. Voilà, donc certains observateurs estiment que cette annonce, en fait, constitue des avancées très significatives, d'ailleurs, dans le processus électoral à RDC et rencontre même le caractère contraignant de la résolution 2277.
Oui, effectivement, je partage à moitié cet avis parce que, en fait, dans la résolution des conflits politiques, les dialogues, c'est une stratégie très importante pour résoudre les conflits politiques. Mais seulement, ces dialogues interviennent en marge du cadre institutionnel. Cela signifie que dans le cadre institutionnel, il est prévu un cadre tripartite de concertation, pouvoir, opposition autour de la CENI. Que l'on revienne à ces cadres institutionnels. Pourquoi on veut toujours créer des stratégies informelles pour se maintenir au pouvoir aussi longtemps que possible?
Merci beaucoup.
Et en plus, permettez-moi d'échuter
rapidement. Oui, rapidement.
Oui, c'est que le problème n'est pas les dialogues, mais le problème c'est les termes et les cadres de référence de ces dialogues. Les dialogues ne peuvent pas aller à l'encontre du respect du texte constitutionnel et je pense que les Congolais se battront pour ça jusqu'au bout.
Merci beaucoup, Jacques, d'avoir appelé de Kinshasa et vous nous avez appelé depuis l'université de Kinshasa, la Colline Inspirée. Christian, vous êtes à Bounia. Bonjour, Christian.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Alors, j'appelle, nous avait écrit en disant que la résolution, elle est trop ambitieuse. Aujourd'hui, bon, il vient quand même de le démontrer par rapport à son intervention. Vous signifiez qu'aujourd'hui, vous estimez qu'effectivement, il y a des avancées, Christian?
Avec la résolution, de l'ONU, il y a vraiment une avancée, quoi, parce que j'espère à mon âme la vie que tout Congolais attend. L'organisation des élections à Nord-Afrique. Apparemment, ça ne va pas entre l'ONU et l'Union africaine, parce que de l'autre côté, l'ONU parle de divulgation de calendrier global et le respect de la Constitution. Et puis de l'autre côté, l'Union africaine est en train de privilégier mettre vraiment de l'accent sur le dialogue. Qui est tant soutenu par la majorité présidentielle. Nous, on ne sait pas ce qui est derrière ce dialogue, parce que si c'était vraiment selon Edem Kodjo, ce dialogue pourrait se tenir sur le respect de la Constitution. J'espère bien que non, à tous ces opposants qui s'abstiennent, qui ne veulent pas venir de ce dialogue, pourront venir de ce dialogue. À mon même avis, comme ma proposition, je pourrais prendre la bonne voie de l'ONU pour vraiment confirmer cette démocratie en RDC, prendre cette bonne voie du respect de la Constitution, et puis que la CENI publie vraiment le calendrier global en fait que les élections puissent se dérouler comme une majorité des Congolais
voilà, merci beaucoup.
C'est le moins, le dialogue pour le moment n'est pas opportun. Le dialogue,
voilà. Ça n'est pas les débats aujourd'hui.
Parce que il y a une couche des opposants.
Oui, nous avions suffisamment fait les débats sur le dialogue au début de cette semaine, mais il retient pour vous assistez à une convergence parallèle entre la démarche amorcée par l'ONU et celle de l'Union africaine. Vous ne voyez pas, en tout cas entre les deux démarches, un dénominateur commun, mais selon vous, la population attend seulement le respect du délai constitutionnel. Merci beaucoup, Christian. Alain, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Alain.
Bonjour Radio Okapi, bonjour à tout le monde.
J'avais parlé tout à l'heure d'une résolution ambitieuse. Nous avons lancé les débats sur le caractère contraignant de cette résolution. Est-ce que vous pensez comme les autres qu'il y a effectivement, au regard des déclarations ou encore des annonces des uns et des autres, qu'il y a des avancées, certes, mais on se rend compte que la résolution 2277 revêt un caractère contraignant?
Bon, je dirais, partant de la volonté exprimée par le membre du Conseil de sécurité, que cela revêt effectivement un caractère contraignant compte tenu de la formulation même de paragraphes ou de résolutions. Mais ce qu'il y a à retenir aussi, c'est que, partant des autres événements, c'est-à-dire si nous prenons la résolution 2098 et d'autres résolutions qui ont été prises en rapport avec la République démocratique du Congo, le caractère contraignant voudrait aussi dire qu'il y aura un suivi à la fin. Mais ce que moi je voudrais mettre en évidence, c'est que les membres du Conseil de sécurité ont trépassé leurs prérogatives et ils ont pris certaines résolutions qui portent déjà en elles-mêmes le germe de sa non-application et je voudrais savoir comment ils vont arriver à résoudre certains problèmes. Tenez, je prends le cas de l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Si on se réfère à toutes les dispositions constitutionnelles, aucun délai, c'est-à-dire en termes de précision, n'a été fixé par le constituant. Si on parle de 19 novembre, c'est tout simplement on se réfère au calendrier électoral. Et pourtant, le calendrier électoral a été révisé et compte tenu de certains impondérables que nous avons aujourd'hui, il nous est difficile de certifier aujourd'hui que nous aurons les élections dans le délai constitutionnel. Donc, ça constitue déjà une option plutôt tendancieuse. C'est-à-dire ça encourage plus l'option de
Alain, vous me permettez, je ne vous laisserai pas continuer, sinon peut-être qu'il y aura cette confusion dans le chef des uns des autres. Hein. Aujourd'hui, vous dites que c'est vrai, d'aucuns ou certaines personnes s'entendent un peu sur les dispositions de la loi électorale. Et pourtant, la Constitution parle de la convocation de l'électorat 90 jours avant. Donc, je crois que le Constitution a déjà déterminé.
Oui. Mais devant des impondérables, il y a possibilité.
Oui, ça c'est autre chose. Mais quand vous dites, Alain, je crois que notre invité pourra revenir sur ça, mais quand vous dites déjà que la Constitution n'a pas déterminé les délais, mais pourtant, il est clair qu'en convoquant 90 jours, c'est déjà un délai de rigueur, un délai fixé par les constituants.
Par rapport au calendrier électoral de 2006 et de 2011.
Non, nous sommes pas en 2006, nous sommes en 2016.
Nous sommes d'accord sur le principe qu'on doit avoir les élections dans le délai constitutionnel. Mais ce délai constitutionnel n'est pas explicitement repris dans la Constitution, mais plutôt dans l'heure électorale. Ce qui importe de mon point de vue,
allez, bon,
les Nations Unies arrivent à réduire ses interventions, surtout dans le sens de soutenir une position. Parce que comme ça met en mal la cohésion nationale. Si vous prenez par exemple le point 4, lorsqu'on reconnaît la latitude à la MONUSCO, même de gérer les armes, donc c'est quelque chose, c'est une sorte d'immixtion ou d'ingérence même dans des questions qui sont qui relèvent de la souveraineté nationale. Donc moi je suis d'avis que nous devons organiser des élections, mais les Nations Unies nous ont donné un document qui sera difficile à appliquer compte tenu de l'environnement politique.
Alors, je ne sais pas, peut-être, mauvaise interprétation de ma part, c'est vrai, je l'ai dit tantôt, une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies est une décision votée par l'Assemblée générale des Nations Unies n'ayant pas de valeur juridique contraignante en droit international public, contrairement aux résolutions du Conseil de sécurité. Là, nous sommes devant un Conseil de sécurité qui prend une résolution, Alain.
Oui, une résolution, oui, mais cette résolution n'a pas tenu compte des tendances. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on lit très bien cette résolution, ça c'est une manière de relayer pratiquement ou de ressasser la position de l'opposition.
C'est
pourquoi nous aurions voulu une certaine
information
que nous n'avons pas ressenti dans la
délibération. Merci beaucoup, Alain Bonneva, d'avoir appelé de Kinshasa. Nous allons prendre Mayala pour terminer cette première série et puis revenir, accorder la parole à notre invité. Mayala, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous avez la parole.
Oui, moi je suis très content pour que l'ONU désigne Ben Kozo comme facilitateur. J'ai fallu l'initiative, mes ex-classes politiques, surtout de l'opposition, d'aller au dialogue pour réqualifier comment organiser les élections en 2016. Donc vraiment, je suis un auditeur qui suit vraiment la votre émission. J'ai besoin que la classe politique d'aller au dialogue. Comme l'idée peut s'accepter, il faut aller au dialogue et voir qu'est-ce que Delco devra faire en suivant les résolutions de l'ONU, de ne pas violer la Constitution. C'est ce que je voulais intervenir seulement.
Merci beaucoup. 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Parole aux auditeurs.
Voilà, merci encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, le cadre d'échanges citoyens. Aujourd'hui, nous abordons la question sur les conseils de sécurité de l'ONU qui a adopté le mercredi 29 mars dernier la résolution 2277. D'aucuns cherchent à ressortir les caractères contraignants de cette résolution. Et souvenez-vous que l'ONU, ce n'est pas la première fois de prendre cette résolution. Et à la plusieurs, nous pouvons évoquer les cas de 2098, 2011 et tant d'autres bien avant. Alors, est-ce que toutes ces résolutions étaient-elles des recommandations simplement ou bien, disons, autour d'elles, il y avait ce que nous appelons la valeur juridique contraignante, comme c'est le cas pour des décisions prises par les conseils de sécurité. Alors, professeur Tshibangu-Kalala, vous venez de suivre les uns et les autres, et de les écouter tous, mais d'entrée de jeu, pour un peu éclairer la lanterne des uns et des autres, qu'est-ce qu'est une résolution au niveau de l'ONU?
D'abord, je tiens à vous remercier pour m'avoir invité à cette émission. Et deuxièmement, de féliciter que je suis au micro, je suis dans la maison de Radio Capi, pour vous remercier vous-même, remercier la direction de radio de l'équipe de Radio Capi et l'équipe
de Paroles
aux auditeurs pour les messages de condoléances que vous m'avez adressés à l'occasion du décès de ma mère, que je vais amener à Mbujimayi ce week-end pour aller l'enterrer parce qu'il est décédé ce week-end. Comme vous le savez, tous les sages Baluba nous apprennent de notre bas âge en disant quand le pays est malade et l'enfant est malade, qu'il faut qu'il soigne. Les sages nous disent qu'il faut soigner le pays, soigner la terre. Et donc, on va commencer aujourd'hui à travailler pour notre pays. Ma mère, ça viendra après. Lire le rouge. Permettez-moi de faire un peu plus de pédagogie.
Tout à fait.
Le 30 juin 1960, à peine qu'on a cessé de chanter le début congolais, indépendance, tcha-tcha-tcha, etc., le lendemain, le président Kasavubu et le premier ministre Lumumba envoient des télégrammes à New York pour demander l'admission du Congo aux Nations Unies. Personne n'a forcé le président Kasavubu, n'a forcé le premier ministre pour demander qu'on admette notre pays comme membre de l'ONU. Eh bien, quand vous acceptez vous-même de devenir membre d'une organisation internationale, eh bien, vous devez accepter de respecter les règles de l'organisation. J'ai entendu beaucoup de slogans à ce sujet, mais il faut que les gens lisent l'article 24 de la Charte des Nations Unies. Tous les États membres des Nations Unies, ils sont aujourd'hui 193, reconnaissent que quand le Conseil de sécurité prend des décisions dans sa compétence de maintien de la paix et de la sécurité internationale, eh bien, le Conseil de sécurité agit en leur nom. Donc la RDC, le gouvernement congolais, a accepté, en signant la charte, en devenant membre de la société, a accepté depuis 1960, parce qu'on a admis notre pays le 20 septembre 1960, que chaque fois que le Conseil de sécurité s'est réuni, prend des décisions, des recommandations, eh bien le Conseil de sécurité agit au nom de la RDC. Article 24. L'article 27 qui vient après dit que tous les États membres des Nations Unies acceptent d'appliquer les décisions prises par le Conseil de sécurité dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité. Et tout ça. Donc la RDC a accepté à l'avance depuis 1960 d'appliquer les décisions, les recommandations du Conseil de sécurité. Pourquoi ? Parce que ce sont ses propres décisions. Donc on a l'impression que l'ONU, c'est quelque chose d'étranger qui n'a rien à voir avec la RDC.
De la RDC est membre de la RDC.
Mais bien sûr, a accepté d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité, article 25. A accepté à l'avance que quand le Conseil décide, le Conseil de sécurité agit au nom de la RDC, comme il agit au nom de tous les autres membres, les 493 membres. Donc, je voudrais que ce soit clair. Et ce n'est pas d'aller signer des documents à l'étranger, ailleurs, et puis quand on commence à vous opposer votre signature, vous dites, oui, ça ne m'engage pas. Mais à ce moment-là, vous devenez un état voyou. Voilà, ça, c'est une précision qu'il fallait
avoir. Mais la vraie question aujourd'hui, les décisions de l'Assemblée, c'est ce que nous appelons les résolutions. J'ai posé tout à l'heure la question, parmi certaines résolutions, on a l'impression qu'on se limite qu'à des recommandations. Alors, à quoi reconnaîtra-t-on qu'on se trouve en présence de l'une des recommandations ou encore des décisions qui a une valeur contraignante?
Je vais aborder cette question. Il fallait que je donne cette précision-là au bon milieu. Et quand vous posez la question, j'enseigne le droit des organisations internationales à l'université. Donc une résolution, c'est un acte institutionnel d'une organisation internationale. C'est le moyen, comme le président de la République, il a agi par voie d'ordonnance, les ministres par voie d'arrêté, le premier ministre par voie de décret. Et donc, l'ONU agit par voie des résolutions, quand ces résolutions s'adressent à l'extérieur de l'Europe. Bien, pour l'Assemblée générale, l'Assemblée générale prend des résolutions. Là, ce sont des recommandations. Ces résolutions n'ont pas un caractère contraignant. Mais qu'est-ce qui signifie une résolution ? Une résolution, d'une manière générale, ou une recommandation, c'est un vœu, c'est un souhait, c'est un conseil. C'est ça le mot, résolution. Mais pour le Conseil de sécurité, les choses sont différentes. Mais, écoutez, je vais parler dans les détails parce qu'il y a des cas où l'Assemblée générale peut prendre une résolution si jamais le Conseil de sécurité est paralysé, ne sait pas agir. Bon, je ne vais pas revenir sur l'Assemblée de la Résolution. Je vais prendre des cas exceptionnels. C'est prévu avec la raison accessoire. Je ne vais pas faire une courte là-dessus. Et donc, ça, c'est un cas par. Mais même si ces résolutions de l'Assemblée générale n'ont pas un caractère contraignant, il faut quand même une autorité politique et morale considérable. 693 États membres se réunissent et prennent une recommandation, qu'on appelle la résolution, et bien on ne peut pas ignorer ça en disant « Oui, mais ça, ce n'est qu'une recommandation, un conseil, un vœu, on ne fait rien, non. » Il y attache quand même une force politique et morale considérable. Et les États membres sont obligés de le respecter. Mais le Conseil de sécurité, c'est autre chose. Dans la résolution 22, c'est carré ici. Il y a un mot. J'ouvre une parenthèse pour dire que j'ai consacré ma thèse de doctorat justement à l'étude des résolutions des Nations Unies. J'ai publié un livre qui est là dans la bibliothèque sur les résolutions. Alors pour le Conseil de sécurité, la situation est différente. Quand vous prenez la résolution actuelle, 2218, il y a deux indicateurs, deux marqueurs puissants dans la résolution. Le premier marqueur puissant, il faut noter, le Conseil de sécurité commence par constater, par dire que la situation en République démocratique du Congo constitue toujours, le mot existe, toujours, constitue toujours une menace contre la paix et la sécurité dans la République. Et là, le Conseil est dans ses compétences. Il constate. Ça, c'est le premier marqueur puissant. Le deuxième marqueur puissant qui vient immédiatement après, c'est que le Conseil dit j'agis sur la base du chapitre 7 de la charte. Agissant sur la base du chapitre 7. Et là, ces deux puissants marqueurs montrent que le Conseil est en train de prendre des décisions. Parce qu'il agit sur le chapitre 7 de la charte. Et le chapitre 7 de la charte, on connaissait les actions, les mesures que le Conseil de sécurité peut prendre pour assurer le maintien de la paix et de la sécurité. Et donc, ces deux puissants, ces deux marqueurs puissants, montrent que le Conseil de sécurité n'est pas en train de s'amuser, de donner des recommandations et des vœux pieux que les États peuvent prendre, accepter ou ne pas accepter. Il est là dans l'exercice de ses compétences, de ses pouvoirs qui sont reconnus par tous les États membres, assurer le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. Mais là, quand on est un État responsable, bon, je veux revenir là-dessus. Mais là,
on peut lire vraiment, voir le vocabulaire.
C'est les lignes, oui.
On peut maintenant aller dans les paragraphes, parce que c'est un paragraphe, et donc on peut lire, voir dans les paragraphes, et voir le vocabulaire que le Conseil de sécurité utilise depuis 1946. Le vocabulaire. Quand le Conseil dit « demande », « exhorte », « demande instamment », là, le Conseil prend les décisions. Quand il dit « je demande au gouvernement de la RDC », le Conseil décide le mot « demande ». Demande instamment, exhorte. Ce vocabulaire-là montre que le Conseil décide. Il peut arriver aussi dans certains paragraphes que le Conseil ne décide pas, mais donne un avis, un conseil, en disant qu'il va d'aller en sorte. Mais il ne faut pas commencer à faire à soupçonner, en disant oui, là il y a une décision du Conseil de
l'Est. Donc il faut,
mais
il faut lire la résolution entre les lignes pour comprendre les
mais la totalité de la résolution, c'est quoi? C'est que le Conseil est en train d'agir dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il exerce les pouvoirs qui lui sont reconnus par la Charte, par tous les États. Et donc, voilà. Les États membres sont tenus de respecter toute la résolution sans chercher à se citoyenniser. Ça, c'est obligatoire. Ça, c'est recommandation. Là, vous voulez tout
alors,
un État responsable.
On va revenir sur
vous êtes un État voyou.
C'est que l'État, disons là, le Conseil a demandé à l'État congolais. En attendant, on va écouter Maître Dominique qui est en Boujibaï. Vous êtes à Boston. Maître Dominique, vous êtes avec nous. Bonjour. Maître Dominique, vous êtes avec nous. Voilà, Joséphine, vous êtes à Boston. Bonjour, Joséphine.
Bonjour, Radio Capi, et merci de m'avoir passé la parole. Je remercie beaucoup je soutiens vraiment la résolution, mais moi je crois que tout ce qui est dit dans cette résolution 2277, c'est connu du gouvernement, mais le gouvernement est en train de faire un semblant. Le gouvernement congolais a organisé les élections en 2006. Par après, il a organisé encore les élections en 2011. Donc, quelque chose qui a déjà été fait. Mais le gouvernement doit organiser les élections. Je comprends et je soutiens ce caractère contraignant. Le gouvernement doit organiser les élections. Le gouvernement a cru qu'il va prendre, il va gagner le temps tout en convoquant, au lieu de convoquer le dialogue, ils ont convoqué
les concertations.
Les concertations. Mais il fallait un dialogue. Il fallait un dialogue. Et moi, je crois que ce n'est pas le dialogue qui doit arrêter le gouvernement à élaborer un budget, par exemple, à élaborer un budget et à faire le code de conduite déjà. Tout doit se faire concomitamment. On peut faire le dialogue en attendant, la CENI est en train d'élaborer le calendrier électoral et au même moment, avant au mois de septembre, on aura tout et puis on va passer aux élections.
Alors, est-ce que vous pensez, Madame Joséphine, est-ce que vous pensez comme les autres le souhait du Conseil de sécurité qui voudrait bien voir la Commission électorale nationale indépendante publier un calendrier complet. Et ce calendrier, une fois publié, on peut les verser, dans les dialogues pour discussion. Et aussi, ça pourrait servir de tableau de bord pour les participants au dialogue pour élaborer un budget et aussi les codes de conduite pour les élections.
Je crois. Le calendrier est là. Le calendrier a été refusé par quelques membres de l'opposition. C'est pas pour autant dire que le calendrier ne peut pas être appliqué. Le calendrier est là. Et si on appliquait le calendrier, pour aujourd'hui, en avril, on devrait être déjà loin. Parce que le calendrier a commencé à sortir en 2013, je crois, ou bien 2014. On pouvait déjà commencer à appliquer le calendrier là. Maintenant, on est là on nous donne un caractère, cette résolution donne un caractère contraignant. Donc on doit organiser les élections.
Merci beaucoup.
Tout en allant aussi au dialogue.
Merci
c'est
beaucoup.
Pas le dialogue qui doit arriver.
Voilà. Alors il y a même les internautes, les messages qui nous sont parvenus en lisant quelques-uns. Il y a même un auditeur qui a posé la question de savoir aujourd'hui entre disons la politique et le droit, qu'est-ce qui prime. Bon, alors nous ne saurons pas répondre à cette question. Je crois que notre invité pourrait y revenir parce qu'à un certain moment, quand ça ne marche pas aussi le plan politique, est-ce que le droit qui reste le principe de base, qui est opposable à tous, peut se plier devant une exigence politique. Voilà, donc c'est à ce niveau-là qu'on va évidemment faire le débat. Merci beaucoup, Madame Joséphine, d'avoir rappelé un peu toute cette disposition. Merci. Alors, on va retrouver Maître Georges Capiamba, qui nous a rejoint également. Maître Georges, qui nous a rejoint. Maître Georges Capiamba, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous. Bonjour, Gérard. Bonjour, professeur Tshibangu Kalala. Bonjour à tous vos auditeurs.
Alors, vous êtes parmi la coalition des 33 ONG qui travaillent pour le respect de la Constitution. Et puis, vous avez, lors d'une dernière déclaration, les 33 ONG, vous avez demandé à ce que les Nations Unies puissent envisager la perspective d'appliquer des sanctions ciblées contre les personnes physiques ou morales qui feront obstacle par acte ou discours de diverses formes à la mise en œuvre de la résolution 2077.
Tout à fait, JF, je commence d'abord par féliciter encore le professeur Tshibangu Kalala qui a clairement expliqué le sens d'une résolution, le mandat des Nations Unies, les obligations qui découlent de chaque État membre des Nations Unies par rapport aux décisions, aux résolutions prises par le Conseil de sécurité. Je n'entends plus revenir. Je crois que c'est suffisamment clair. Je voudrais seulement rappeler que dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationale, il faut sous-entendre la menace elle-même à la paix comme à la sécurité internationale, aussi bien les autres actes qui peuvent être indiqués, notamment par le professeur Tshibangu Kalala, mais moi je voudrais vous indiquer que figure aussi les violations graves des droits de l'homme, les crimes internationaux font partie des éléments constitutifs de la menace à la paix, à la sécurité internationale. Et la raison pour laquelle nous saluons la résolution, nous l'avons saluée déjà dans notre déclaration en date du 5 avril, et nous avons vivement recommandé au Conseil de sécurité de prendre des dispositions pour déjà envisager des sanctions individuelles ou des sanctions contre des personnes qui tenteront de faire obstacle à la mise en œuvre effective de cette résolution. Et ces personnes seront celles qui se distingueraient par des actes, des discours, allant dans le sens d'appeler des gens ou de prendre des dispositions au niveau interne de la RDC pour que cette résolution ne connaisse pas de
fait. Oui,
déjà
oui.
Aujourd'hui,
oui.
Nous connaissons déjà certaines personnes qui tiennent des discours, des ministres. Nous avons suivi tout au long de deux semaines dernières le ministre des Affaires étrangères, plus grave encore, lui qui est l'interlocuteur direct même du Conseil de sécurité, ne s'est pas empêché de pouvoir traiter avec une sorte d'indécence que le Conseil de sécurité a brillé par irresponsabilité. Il s'est fait emboîter par les ministres des médias et des communications. Donc nous considérons que déjà là, nous avons deux personnes qui
oui,
se distinguent
oui,
déjà par
oui,
des discours
oui.
Dans le sens de faire obstacle à
oui,
la manœuvre
oui,
de la résolution.
Oui, maître Georges, ben c'est vrai, et pourquoi une telle pression pour faire appliquer la résolution 2077, mais on n'a pas vu autant, disons, avec la résolution 2098.
Non, nous l'avons fait hier. Peut-être que cela a été fait, ça a la même ampleur que celle
oui.
Que vous constatez aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous comprenez très bien parce que, comme le Conseil de sécurité des Nations Unies l'a précisé, l'a rappelé, le professeur Tshibangu Kalala est revenu là-dessus, le Conseil, comme nous inquiétons énormément, profondément, par rapport à l'évolution de la situation politique, critique de la RDC, qui, si aujourd'hui ne prend pas des dispositions, les gens ne se mettent pas à travailler, à poser les actes qui sont attendus d'eux, notamment ici, l'organisation de l'élection présidentielle, va faire déboucher la RDC dans la situation qui va déstabiliser la non seulement les pays, mais la région des Grands Lacs, mais aussi porter atteinte à la sécurité et à la paix internationale. Donc il faut absolument que tous nous puissions nous lever, nous mobiliser tout le monde, l'opinion nationale et internationale, pour que cette résolution connaisse rapidement la mise en œuvre, sinon ça va être une situation catastrophique, chaotique, que nous ne devons pas attendre pour gérer.
Voilà, merci beaucoup, maître. Je crois que nous allons vous poser juste une question de relance par rapport à cette déclaration, mais nous vous gardons encore en ligne. On prend maître Dominique qui nous a appelé de Mujumaï. Maître Dominique, vous êtes avec nous en Mujumaï. Bonjour et bienvenue dans la parole aux auditeurs.
Bonjour, JR. Mes condoléances au professeur Tshibangu Kalala qui a perdu sa mère et qui est entré dans le monde des orphelins que nous sommes. N'empêche, monsieur JR, la résolution de 2277 des Nations Unies, nous la saluons de tous nos voeux, nous la souhaitons et nous applaudissons. Nous sommes même prêts au 24 avril de faire une marche ici de soutien à cette résolution-là, parce qu'enfin, tout le monde, le monde entier a compris que le ciel pouvait tomber. Comme au Congo, on l'a entendu, on l'a vu, on a dit à Lubumbashi que le ciel pourrait tomber ou le ciel ne tombera pas. Donc on a senti qu'il y avait un mouvement quelque part. Il est arrivé encore, monsieur JR, que nous avons senti au Congo que le monde bougeait, le ciel bougeait, parce que il y a plus de sept rames des engins militaires, des chars de combat,
Je crois que le gouvernement a suffisamment communiqué quant à ce. Je crois que nous ne devons pas revenir sur les chars, tout ça. Ce n'est pas l'objet vraiment des dégâts.
Tu ne peux pas me le faire arriver.
Non. Je veux que vous arrêtez tout de suite, maître Dominique. Permettez-moi. C'est moi qui dirige les débats. Je peux sentir si chacun est dans le sujet ou il est dehors du sujet. C'est mon devoir de pouvoir, en tout cas, à empêcher à tout celui qui pourrait peut-être nous couper le temps inutilement. Maître Dominique, je pose une question précise. Vous êtes un homme des droits. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la politique peut primer sur les droits?
Il y a des cas, lorsque le droit est brouillé, lorsque le droit devient brisé, la politique vient poser les jalons du droit. La politique vient relancer le droit. Et lorsque l'on a déjà amorcé le droit, on commence à foncer sans s'arrêter. Or, au Congo, nous nous rendons compte que nous sommes arrêtés. C'est pourquoi la politique réunis au niveau, à l'échelon international, a jugé bon de poser un jalon. Le jalon, là, c'est la résolution 2277. Elle pose alors le fondement des élections pour prévenir la paix qui va venir d'ici là, et la paix qui sera entamée d'ici là. Ainsi donc, en posant ceci, M. JR, comme le professeur l'a expliqué, dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Mais au Congo, nous nous rendons compte que les gens veulent choisir ce qui leur plaît, surtout les gouvernements congolais. Ils veulent choisir ce qui leur plaît. Quand les Nations Unies prennent une résolution tendant à satisfaire les intérêts des individus qui sont au gouvernement, là vous entendez tout le monde applaudir. Tout le monde applaudit. Lorsque l'on a dit qu'il y ait dialogue, ils ont applaudi. Mais dans la même résolution-là, on dit néanmoins qu'on respecte les élections selon les acquis de la Constitution. Là, alors, ils appellent ça irresponsabilité.
Merci beaucoup, si vous le permettez, on va passer à une autre personne également. Mais nous comprenons que pour vous, c'est vrai, il faudrait qu'on accepte quand même de vivre la réalité en face. Quand il y a une résolution, c'est toujours dans l'intérêt de maintien de la paix, et que le professeur l'a dit et tout à l'heure, vous venez de le dire aussi. Merci beaucoup. Joe Mukuna, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Joe.
Bonjour.
Bienvenue dans Parole au Défenseur. C'est Cameroun et
je vous salue également. Je suis très content, ce débat élève la nation en tout cas.
Oui. Alors, quel est votre avis?
Je voudrais intervenir sur deux volets seulement. C'est la notion de la souveraineté. Il y a quelqu'un qui dit que, le fait du caractère contraignant de cette résolution du Conseil de sécurité, c'est là torpille la souveraineté nationale. Mais je voudrais rappeler que la notion de la souveraineté est aussi dans les chartes. Lorsqu'on accepte de signer la Charte des Nations Unies, on cède une partie de sa souveraineté au profit du monde entier. C'est comme cela que les conseils de sécurité essayent un peu de chercher par tous les moyens. Là où ça ne va pas, là où la sécurité internationale est dérangée, il intervient. Donc, là, par rapport à celui qui pense que quand on prend une résolution ou dans le sens de contraindre le gouvernement de la République du Congo à organiser des élections dans les délais, c'est pour bien sa souveraineté. Non, je me suis en faux. Ça, c'est pour répondre à celui-là qui avait intervenu.
Merci. Merci beaucoup, John Mukula. Je ne sais pas, vous avez encore quelque chose à ajouter?
Oui, oui. Maintenant, nous sommes à l'RDC. Est-ce que le fait pour les gouvernements d'organiser les élections dans les délais, le fait pour le gouvernement de faire en sorte que nous ayons la calendrier électorale dans les délais, le fait pour les gouvernements de respecter la constitution par rapport au mandat de l'actuelle pouvoir public, est-ce que cela devait susciter des contraintes? Parce qu'aujourd'hui, on se trouve en train de penser que c'est grâce au compte. Dans ce pays, monsieur le journaliste, l'accord cadre d'Addis Abeba a été signé sous contrainte. Ça ne suffit. La révolution qui a engendré, les accords qui ont engendré même la constitution de 2006 étaient sous contrainte. Donc, rien n'est fait cette fois dans ce pays sous contrainte. Nous saluons beaucoup, n'est-ce pas,
la révolution,
et nous pensons que cette question de la démocratie risque d'être en difficulté, d'autant plus que le gouvernement ne sait pas protéger la démocratie chèrement acquise. Voilà. Nous avons acquise avec le sang, sous le prix du sang que nous avons acquise cette démocratie. Donc le gouvernement est en droit, et dans l'intérêt supérieur de la nation, de protéger cette démocratie en soutenant l'alternance. Mais quand on ne veut pas de l'alternance, on veut s'accrocher au pouvoir.
Merci.
On veut qu'on revienne dans son mandat.
Merci. Merci beaucoup, Joe Mukula, d'avoir appelé. Nous allons prendre Maître Georges Kapiama, qui est le président de la CAJ, de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, parmi les 33 ONG qui ont réagi sur les caractères contraignants de cette résolution 2277. Alors, Maître Georges, vous avez suivi les autres, vous avez quand même une réaction?
Oui, je crois que il faudrait pas qu'on fasse perdre l'état aux Congolais sur cette question du caractère contraignant ou non contraignant de cette résolution. C'est connu de tout le monde. Mais nous pensons que le professeur est revenu là-dessus. Il a déjà éclairé les lanternes de certains citoyens congolais qui étaient trompés pendant ces derniers jours par certains acteurs politiques. Je voudrais seulement rappeler que le gouvernement de la République démocratique du Congo, précisément les membres du gouvernement, ont l'obligation, en tant que tels, de conduire les affaires de l'État dans le strict respect de la Constitution et des engagements de la République démocratique du Congo sur le plan international, notamment dans le cadre des Nations Unies, de la Charte des Nations Unies et des autres instruments juridiques internationaux. Et parmi ces instruments, nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui impose à ce que tout gouvernement, toute autorité, puisse gérer le pays
en respectant les fondamentaux de la démocratie, qui sous-entendent que, qu'il soit donné la possibilité aux citoyens de participer à la désignation de ses dirigeants de manière libre et suivant les délais qui sont déjà établis. Et dans les cas d'espèce, il ne s'agit pas d'un cadeau qu'on fait aux citoyens congolais. Il s'agit pour les membres du gouvernement d'exécuter leurs obligations en tant que gestionnaires quotidiens de notre pays, c'est-à-dire en prenant les dispositions, en donnant les moyens à la CENI et à la CENI de prendre des dispositions pour que l'organisation de l'élection, notamment présidentielle, se réalise dans les délais constitutionnels parce qu'il s'agit d'une obligation de résultat dans leur sien. Ils ne doivent pas donner l'impression qu'ils vont faire un cadeau aux Congolais parce que la République démocratique du Congo, comme tous les autres États membres des Nations Unies, sont tenus au respect de ces obligations-là.
Merci beaucoup, Maître Georges Kapiamba, d'avoir accepté notre invitation et pour contribuer dans cette émission. À très bientôt. Nous revenons d'ailleurs à vous, professeur Tshibangu Kalala. Alors, l'Union africaine, l'ONU, l'Union africaine d'un côté, l'ONU de l'autre, avec la résolution et là-bas avec la désignation de Len Kodjo comme facilitateur, tel que le souhaitait l'opposition en ce temps. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a là deux démarches qui ne convergent pas?
Monsieur Germain, c'est une belle question, je vais y répondre. Permettez-moi de donner quelques précisions pour de la résolution. Je remercie Jaffé de Kinshasa qui a fait la région, je partage son analyse, si j'en fais. Maître Dominique de Mbujimaï, merci pour tout. Mais il y a un problème avec notre ami Alain de Kinshasa, parce que vraiment, on est en train de faire des slogans. Il dit, écoutez, mais il n'y a pas de calendrier ou de délai prévu dans la Constitution. L'article 73 de la Constitution est clair. C'est-à-dire, on dit le scrutin. On ne parle même pas de convocation. Le scrutin pour l'élection présidentielle est convoqué. Donc, l'élection du président de la République est organisée 3 mois avant l'expiration du mandat du président de la République. Donc, le délai est déjà là. Donc, on connaît ce délai depuis des années et des années. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas prévu dans la Constitution.
Il y avait là un délai de rigueur, un délai de forme.
Mais, écoutez, parce que
c'est pas un débat de juriste.
Oui, voilà. Non, je dois répondre à cette question. Et là, j'explique maintenant à tous les défenseurs de l'état du droit et de la démocratie dans notre pays, Maître Kapiamba, que je salue, tout à fait d'accord avec tout ce qu'il a dit. Eh bien, je vous dis, on ne peut pas mettre un délai dans la Constitution juste pour embellir la Constitution. C'est comme un bouquet de fleurs qu'on met dans la Constitution. C'est un délai contraignant qui doit être respecté. J'informe tous les défenseurs de l'état de droit, ils doivent noter ça, parce que pour moi c'est une arme politique et juridique que nous allons utiliser, c'est un écrit qui note, le 13 septembre 2006. 13 septembre 2006. La Cour suprême de justice a rendu un arrêt dans l'affaire Démotique. Affaire Démotique. Si Maître Kapiamba n'a pas la copie de cet arrêt, j'ai la photocopie, je vais lui remettre pour qu'il puisse diffuser largement. Voilà. Qu'est-ce que la Cour suprême dit dans cet arrêt? La commission électorale avait fixé la date du deuxième tour de l'élection présidentielle au 29 octobre 2006, alors que l'article 71 de la Constitution prévoyait un délai de 15 jours. Donc la commission était allée au-delà, avait violé l'article 71 de la Constitution en fixant la date du deuxième tour au-delà de 15 jours. Mais M. Demosique a attaqué cette décision devant la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité. Et la Cour suprême a annulé, si vous voulez, a dit que cette décision de la commission est inconstitutionnelle.
Nous sommes en 2006.
Et donc, quand on met un délai dans une constitution, ce n'est pas pour s'amuser, pour dire oui, c'est des rigueurs ou d'ordre. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Nous sommes dans un pays où on a la culture de non-respect des textes, de non-respect des délais concernant.
Donc, c'est pour respecter.
Mais il faut respecter. Et donc, tous les démocrates doivent noter cet arrêt, parce que j'ai appris que la Cour constitutionnelle va demander, la CENI va demander à la CENI,
va attaquer à la presse,
oui,
que son intention d'aller
à la Cour constitutionnelle,
l'extension du délai.
Nous devons surveiller, si jamais cela arrive un jour, nous devons surveiller, tous les démocrates doivent surveiller, parce que nous avons un précédent, et là, Nous verrons si la Cour constitutionnelle va
s'appeler. Ça fait déjà un cas de jurisprudence.
Ah, bien sûr, oui. On va respecter les délais, Jérôme Guémont. Ou bien on est un État de droit digne de ses noms respectés, ou on est une République bananière.
Alors revenons maintenant à l'OIA et l'IA.
Oui, mais s'agissant du problème de la souveraineté, c'est une précision importante. La souveraineté d'un État ou des États est limitée par le droit international. Ce n'est pas une souveraineté absolue. Donc, quand un État signe un traité international, devient membre d'une organisation internationale, eh bien, sa souveraineté est limitée par le droit international. La résolution 2277, c'est du droit international.
Dans notre constitution, il a même dit que les textes et l'article comment sont signés sur le plan international et ratifiés ont donc pris la suprématie sur les textes.
Tout à fait. Et donc, il faut que les gens notent que la résolution 2277, c'est une résolution de la RDC. Ce n'est pas une résolution de l'OIT, c'est de la RDC, parce que la RDC a déjà dit que tout ce que le Conseil supérieur va faire, il agit à mon nom. Et que je m'engage à respecter les décisions de l'ONU, du Conseil de sécurité, article 25. Donc ça, c'est très important. Il ne faut pas commencer à opposer ONU, RDC et souveraineté. Non. La souveraineté de la RDC est limitée par le droit international. J'accepte. Ça, c'est. Mais non.
Vous me posez la question de savoir, les démarches des uns ou d'autres, l'Union africaine désigne comme facilitateur Edem Kodjo, qui d'ailleurs a annoncé que tout va se faire dans le respect du délai constitutionnel, dans le cadre légal, en fait, de la Constitution, qui est la loi fondamentale.
À vrai dire, finalement, il faut qu'il y ait un abcès. Quel est le problème qui est là? Le problème, ce n'est pas Edem Kodjo. Edem Kodjo, c'est un intellectuel habité immense. Qui a eu un parcours intellectuel, universitaire, professionnel et politique remarquable. C'est vraiment de très grande qualité. Le problème, ce n'est pas Edem Kodjo. Le problème, ce sont les buts du dialogue. Qu'est-ce qu'on va chercher au dialogue? Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je suis un homme déçu. Comme on dit chez nous, quand vous avez été mordu par un serpent, vous avez finalement même perdu une corde. Et vous, j'étais en concertation nationale. On a rendu des très belles réunions, un travail excellent. On a mis en place un comité de suivi de ceci. On a dit qu'il y aurait un gouvernement de cohésion nationale qui va apporter ces résolutions. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Donc, l'encre des résolutions des conseils internationaux n'a pas encore séché sur les papiers. On dit maintenant, bon, allons encore au dialogue. Qu'est-ce qu'on va y faire? Ce sont les buts du dialogue. C'est ça le problème. Alors, si ce dialogue peut faire aboutir à ce fameux glissement, là, il y a un problème. Et donc, ceux qui peuvent aller au dialogue, je les aime parce qu'ils veulent y aller. Mais il y a des lignes rouges qu'on ne peut pas prendre, qu'on ne peut pas franchir. Qui est l'élection présidentielle?
Le fait qu'Edem Kodjo ait déjà dit que tout se fera dans le cadre légal, n'est pas là quand même une avancée ou des avancées très significatives.
Moi, je suis prudent. Les déclarations des bonnes volontés des uns et des autres. Je me dis, bon, il ne faut pas me donner comme de l'argent en espèces. Moi, j'attends voir.
Bon, est-ce que là, maintenant, on ne se retrouve pas en face de nous avec deux démarches, l'ONU qui, avec la résolution et l'IA, bon, finalement, il y a des auditeurs qui sont vraiment dans une confusion, professeur.
Mais moi-même aussi, je suis dans la confusion. Je ne sais pas ce qu'il faut dire aux auditeurs de Radio Okapi à ce sujet. Parce que moi-même, je ne comprends pas ce que c'est le dire. Quels sont les buts du dialogue? Est-ce que pour organiser. Si vous voulez nettoyer le fichier électoral, est-ce qu'il faut faire un dialogue pour ça?
Parce qu'il y a des contentieux, il y a des problèmes, il y a une prise dans l'air, il y a.
Pour moi.
Il y a des étincelles qui vont.
Attendez, mais pourquoi étincelles? Le président de la République.
Parce que les engagements de tous, c'est si nous voulons des élections apaisées. Donc c'est comme s'il y a une tension latente.
Mais quelle est la tension? Pourquoi attention? Et donc, le problème est très simple. Le problème, c'est que, est-ce que le président de la République sortant, si on arrive au mois de décembre, le 20 décembre, c'est ça l'enjeu, il ne faut pas aller à gauche.
Voilà, on va éviter les
choses, il y a un problème.
Professeur. On revient à vous par rapport à ça. Alors, d'accord. Philippe est à Kindou, à Saint-Lakikwit, et Maître Tien à Kinshasa. Philippe, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, Roger, bonjour les auditeurs de la radio qui sont à travers le monde, bonjour les, mon professeur des droits et professeur Kalala, bonjour sur le plateau.
Voilà. Alors Philippe, vous avez suivi les autres, alors quel est votre avis? Est-ce que vous pensez comme les autres qu'aujourd'hui, nous sommes devant une résolution qui est très contraignante?
JR, je ne suis pas du tout d'accord sur le caractère obligatoire de cette voie résolution. Pourquoi JR? Parce que selon la notion du droit international, il y a les accords. Les accords relèvent le caractère obligatoire facultatif ou bien le caractère mutuel et non pas le caractère obligatoire. Je prends l'exemple en disant ceci, le cas de Yémen au Damas, le cas de Cuba au Damas. Ça, c'est une matière que j'essaie de donner à mon professeur de prendre aussi la tête sur ça. Je reviens à la deuxième raison sur la souveraineté d'État. L'État congolais est un État souverain comme tout autre État. L'ONU n'a pas injonction à donner à l'État congolais, si ce n'est que dans d'autres matières qui relèvent de l'insécurité internationale, du climat et du tout, et d'aider. Les élections n'est pas le problème à remettre en cause de la sécurité internationale du grand lac. Ça, c'est une notion interne congolaise. Je remets troisième raison. La résolution de l'ONU ne semblerait pas, à mon avis, trouver leur assistance ou apport au problème inter-congolais de façon que la vraie cause des Congolais aujourd'hui, c'est la manque de confiance des acteurs politiques. D'abord, c'est ça. Plutôt, l'ONU devrait, prendre les décisions par rapport aux techniques et méthodes plus fiables au nettoyage du fichier électoral au service de la CENI, afin d'apporter la crédibilité au sein de la classe politique. Deuxièmement, elle devrait prendre la résolution apportée d'assistance financière technique au problème purement technique évoqué par la CENI. L'ONU devrait aussi trouver sa contribution sur l'enrôlement du mouvement G1 et des Congolais à l'étranger. Je demande à Mme Josephine si elle est en train de me suivre à Boston. Elle sera enrôlée comment là-bas à Boston pour qu'elle puisse être en possession de l'aide aussi à l'extérieur. Et je me pose aussi la question de savoir, ce sont les vraies causes de la manque de confiance de la classe politique à la démocratie du Congo. Car nul n'ignore, ainsi que mon professeur qui est là, n'ignore que l'ONU a vraiment la capacité d'apporter assistance technique, c'est-à-dire d'envoi des volontaires des Nations Unies pour aider à travailler en collaboration. C'est-à-dire pour aider à travailler en collaboration avec la CENI sur les questions purement techniques et deuxièmement l'apport logistique. L'ONU, à travers la MONUSCO, est devrait nous aider à déployer les matériels d'enrôlement dans les nouvelles provinces, ainsi que à partir de Mme Josephine Abosan, qui est souvent aussi enrôlée. Vraiment. Et troisièmement, elle devrait aussi se donner des résolutions à apporter la technique financière. C'est quoi agir? Elle devrait dire l'ONU, j'ai contribué au temps, la République aussi démocratique du Congo au temps. J'ai reçu, s'il vous plaît, si l'ONU.
Voilà, on a pris un peu de temps.
La résolution de l'ONU devrait ainsi se focaliser sur ça.
Voilà, Philippe, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de participer dans cette émission. Nous rappelons à ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent également participer à cette émission en composant les 081-890-63-15 et aussi placer le message sur notre page Facebook. Nous poursuivons avec Parole aux auditeurs. On était à Philippe, à Kindou. Arsène, vous êtes à Kipuk, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur JR, bonjour à tous les auditeurs et mes condoléances au professeur.
Voilà, vous avez la parole Arsène, quel est votre avis?
Merci beaucoup pour la parole. Je commencerai d'abord par trouver un peu d'irresponsable mon prédécesseur. Je ne sais pas s'il a vraiment fait le droit. Je m'en excuse, mais je passe. Je dirais ceci. À chaque instant que nous avons le problème ici chez nous, je crois qu'à la dernière des solutions, nous allons courir tous. Tout le monde court vers les Nations Unies. Et regardez, comme le professeur l'a dit au début de la naissance de cette nation, il y a eu Lumumba, il y a eu Kasavubu qui sont allés aux Nations Unies. Et aux Nations Unies, on n'a pas su accepter Lumumba. Pourtant, Lumumba a porté la voix de la population tout entière, ou peut-être de la population en majorité. Et dès qu'on ne l'a pas reçu, il est sorti, il est rentré. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est la même organisation qui a couru vite ici. Et il nous a fallu combien de temps pour maîtriser tout ce qu'il y avait comme désordre. Et après ce désordre-là, on a passé combien de temps pour subir une dictature que nous ne pouvons même pas penser là-dessus. Et après cette dictature, qu'est-ce qui s'est passé encore? Il y a un groupe de gens qui se sont appelés, je ne sais, des Manyamouline, puis Asdel, puis ainsi de suite. Aujourd'hui, nous comptons combien de morts depuis l'indépendance. Il ne faut pas tout le temps prendre des paroles irresponsables. Nous avons des
semaines à Arsène.
Pour rentrer.
Arsène, à l'endroit au but, est-ce aujourd'hui la résolution 2277 révèle-t-elle un caractère contraignant, comme le pensent certaines personnes?
Non, on doit contraindre, c'est comme ça que le Congolais marche. Il faut toujours les contraindre, il faut toujours les pousser derrière. Parce qu'il y a des fois, on passe tel que ce que nous avons appris sur les ondes avec nos ministres. Vraiment, vraiment, qu'est-ce qui va se passer? Parce que si aujourd'hui son ministre, c'est pas ça.
Oui, mais vous avez suivi quand même, il y a l'auditoire qui a parlé de la souveraineté. Je crois que, quelle est votre compréhension de la souveraineté d'un État?
Bon, la souveraineté, on est souverain par rapport à quoi? On est souverain par rapport
à quoi? C'est la question que je vous pose, Arsène, par rapport à... Je vous pose cette question. Quel est votre entendement par rapport à la souveraineté?
Mon entendement par rapport à la souveraineté, il y a des limites. Nous sommes un pays souverain, nous prenons nos décisions, nous prenons nos programmes, nous prenons nos...
Alors, restez en ligne, le professeur... Oui, professeur va vous aider. Professeur, quand on parle de la souveraineté, je crois qu'il en va. Nous allons faire quand même une pédagogie pour tous ceux qui appellent pour bien comprendre la souveraineté et la résolution prise par le Conseil de sécurité.
Oui, très bien, Guillaume Togo. Le mot souveraineté, on peut distinguer la souveraineté à l'intérieur de l'État et la souveraineté à l'extérieur. À l'intérieur d'un État, c'est l'État qui est souverain, c'est-à-dire le pouvoir suprême. Au-dessus de l'État, il n'y a aucun autre pouvoir qui tient à RDC. C'est l'État congolais. Institution suprême, pouvoir d'État. À l'extérieur, dans les relations internationales, la souveraineté signifie que tous les États sont égaux. Il n'y a pas un État qui est au-dessus d'un autre État, qui peut commander un autre État. C'est ainsi qu'au sein des Nations Unies, l'organisation est basée sur le principe de l'égalité souveraine des États. Tous les États sont égaux entre eux. Grands ou petits, tous sont égaux. Il n'y a aucun qui est au-dessus de l'autre. C'est ça, la souveraineté. Mais attention, la souveraineté dans l'ordre international n'est pas absolue. Cette souveraineté est limitée par le droit international. Vous devenez membre des Nations Unies, membre de l'Union africaine, vous êtes tenu de respecter les règles de l'organisation dont vous êtes membre. Donc, le fait de signer un traité international, comme dernièrement nous avons négociation, etc., COP 21, dès lors que l'État congolais appose sa signature au bas d'un traité international, eh bien, cet État est tenu de respecter les règles dans le traité. Donc, sa souveraineté est limitée. Vous n'avez que le choix. Ou bien vous quittez le traité, vous le dénoncez, ou vous quittez l'organisation, comme l'Indonésie l'avait fait en 1965, elle n'était pas contente à quitter l'ONU. Et l'année suivante, elle est revenue d'elle-même. Alors, si la RDC n'est pas contente de l'ONU, elle n'a qu'à se retirer. C'est
voilà,
tout.
Voilà.
Dès que vous êtes membre,
on va prendre
vous êtes tenu de respecter les résolutions. C'est la règle.
Alors, on va prendre Maître Etienne et Maître Alain, et puis on revient à vous pour conclure cette émission. Maître Etienne, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour. Oui, merci beaucoup pour la parole. Je présente mes condoléances au professeur Chibangu. Mon apport, je pense succinctement, considérant en fait le droit.
Voilà. Maître Etienne, je crois que vous allez commencer par éteindre d'abord votre poste récepteur parce que ça fait un mauvais retour à l'antenne. Ça ne nous permet pas de vous suivre correctement. Alors, il est temps de prendre d'abord Maître Alain et que vous arrangiez que votre ligne s'améliore, comme ça on reviendra à vous. Maître Alain, vous êtes à Kalima. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à tous les invités. Je voudrais juste intervenir par rapport à l'émission, à la thématique du jour. Monsieur.
Oui, allez-y rapidement, parce qu'on a pris assez de temps. Vous avez une minute.
Oui. Cette déclaration de l'ONU, le caractère contraignant est vraiment salutaire pour le peuple congolais. Pourquoi? Parce que l'ONU même a remarqué que la majorité cherchait à tout prix aller vers le président pour que le président Kabila se mette toujours au pouvoir. En plus, elle a aussi constaté que cette série
interpréter les décisions de l'actuel gouvernement.
Est-ce que Maître Alain, vous avez lu l'entièreté de cette résolution? Est-ce que vous avez lu l'intégralité?
Je ne l'ai pas lu, mais je vous le
fais à travers les lignes. Alors, il ne faut pas monter les intentions. Oui, il ne faut pas faire le procès d'intention parce qu'il ne faut pas faire dire ce que la résolution ne dit pas. Voilà, donc il faut commencer, ça c'est le conseil que nous donnons souvent aux auditeurs qui interviennent, de lire le texte et de s'approprier de ce texte. Ça pourrait vous permettre de bien faire le débat quand vous êtes ensemble. Parce que il n'y a pas intention de pouvoir glisser, il n'y a pas intention, en tout cas je ne prends pas paix et cause, jusque-là tel que dénoncé par la résolution. Mais la résolution a simplement constaté que l'insécurité dans la région du Grand Lac continue à persister, et a fait quelques recommandations en soutien. Étant, voilà, il a pris quelques décisions coulées sous forme de cette résolution qu'on a appelée résolution 2277. Merci beaucoup. Alors, Maître Etienne, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
Oui, vous avez la parole. Je crois que oui, maintenant, ça va mieux.
J'ai pas la question, mon poste récepteur. Appliquant le principe de droit, nous avons, je vais démarcher un peu mes prédécesseurs, nous avons ce qu'on appelle la philosophie du droit. J'ai voté ici en ce qu'elle fait. En ce qu'elle fait, qui dit, qui différencie la philosophie du droit et la théorie pure du droit. Je crois qu'il faut vraiment appliquer les principes, parce qu'on l'a dit, tant internationaux par rapport à la résolution, et tant nationaux. La conscience est claire, donc le délai constitutionnel est là, on ne peut pas en aller au-delà. Parce qu'on pense qu'à cette part de la théorie pure du droit, c'est du masque, du sophisme, en fait juridique, quand on veut aller se démarquer des principes juridiques, là on est à côté. Et là j'invoque encore le sophisme qui est parallèle. Parce que quand on dévie ce principe, nous tombons dans un principe qu'on peut en mettre du droit pénal. Les mobiles n'en perdent pas. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de genre. Et qui a expliqué de l'autre côté, mais non, qu'on a vu qu'on a. Mais je crois que le dialogue, c'est peut-être aussi le plan de qu'on a le dialogue.
Voilà, merci beaucoup, Maître Etienne. Merci beaucoup. Alors, professeur, on va conclure ensemble. Il y a une question qui est restée un peu pendante. Il y a un auditeur qui a essayé un peu de voler un peu pour donner un peu d'éclairage. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment selon les principes du droit. Quand il y a la politique et le droit, quand il y a ce duel, qui a la suprématie ou la primauté par rapport à l'air. Voilà. C'est que vous posez à quelqu'un qui a une double casquette, qui a la fois juriste et politique. Écoutez, je vous dis bon. Qu'est-ce que c'est que la politique? Au sens noble du terme, la politique, c'est l'organisation de la vie dans la société. S'occuper de l'intérêt général, du bien commun. Il y a des hommes et des femmes qui se consacrent à cela. C'est ça, c'est pour s'occuper de la vie de tout le monde. Cette activité-là doit être menée par des gens honorables, des gens dignes, des nobles. Mais c'est une activité qui ne peut pas se faire dans l'anarchie. Il faut des règles. Donc la politique, ce n'est pas l'anarchie. La politique est encadrée par des règles. C'est pour cela que tous les pays du monde, vous trouvez qu'il y a des constitutions, qu'il y a des lois. C'est pour encadrer la vie politique, les activités politiques, pour s'occuper de l'organisation. Et donc, on ne peut pas continuer à opposer la politique et les droits. Donc, quand une règle de droit ne vous arrange pas, vous cherchez à modifier la règle pour la tailler à votre mesure. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Les uns estiment qu'après le 20 décembre, le président sortant peut continuer, les autres n'est pas question, qui s'en fait leur règle.
Là, nous sommes devant une réalité politique.
Nous sommes devant une réalité, Jean-Luc Guimbaud. Et donc, la politique, parce qu'il y en a qui disent, oui, mais c'est la politique. Mais la politique.
Le temps qui nous reste, pour les âges, ils ne sont pas favorables pour aller aux élections.
La politique, c'est une activité noble qui doit être réservée aux gens sérieux qui s'occupent de l'intérêt général et du bien commun. Ce ne sont pas des aventuriers de tout bord qui doivent s'occuper de cela. Et cette activité noble, cette activité doit être encadrée par des règles. Et donc, il faut.
Nul n'est au-dessus de la loi. La loi est responsable à tous.
Tous les Congolais, tous ceux qui interviennent, vous disent nous devons respecter l'état des droits. Mais qu'est-ce que c'est l'état des droits? L'état des droits signifie un état où règne la primauté de la règle de droit. Donc tout le monde est soumis à la loi, à la constitution,
à commencer par le président de la République, qui lui, il prête serment. Il a prêté serment en jurant de respecter la Constitution et les lois de la République.
La
On ne peut pas continuer à opposer politique et droit. Ouais. Les règles existent, la Constitution est là.
La résolution vient de s'ajouter.
La Constitution vient de renforcer et contraignante, parce qu'adoptée sous le chapitre 7, et le Conseil de sécurité exerce ses pouvoirs sous le chapitre 7, cette raison est contraignante et doit être respectée, à commencer par les États qui sont membres des Nations Unies, et à commencer par la RDC qui doit l'appliquer de bonne foi au lieu de commencer à lancer des slogans irresponsables.
Voilà, professeur Chibangu Kalala, vous êtes professeur en droit international à l'Université de Kinshasa et aussi président d'un parti politique de l'opposition. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir répondu à tous les auditeurs, hein, de pouvoir éclairer la lanterne des uns des autres par rapport à cette question. On se retrouve très prochainement. Merci. Voilà, c'est par ici que je mettrai un terme à cette émission. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Je pense à Pierre Lamégie qui est à la réalisation. Julie Fézabongo.